Alors voilà, nous avons la chance d'avoir Henri Texier au téléphone pour nous parler plus particulièrement de son nouveau disque Chance. Henri Texier, bonjour.
Bonjour.
Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté cet entretien à la fois pour le magazine Citizen Jazz et pour notre heure du jazz sur Radio Déclic Lorraine. J'ai souhaité vous poser quelques questions à l'occasion de la sortie de votre nouveau disque chez Label Bleu, qui est en quelque sorte, on aura l'occasion peut-être d'en reparler tout à l'heure, votre label fétiche. Alors ce nouveau disque s'appelle Chance, et dans un texte que vous signez et qu'on trouve sur le livret du CD, vous expliquez en quoi vous estimez avoir eu de la chance dans votre vie en musique. Alors ce sont des passions, des amitiés, des partages, des transmissions, des engagements, des émotions. Et ma première question, en fait, elle va être la suivante. En 2020, après quelques 60 ans de vie en musique, votre appétit de jouer semble intact et on sait que votre regard sur notre monde troublé est toujours aussi lucide. Alors la question est simple, êtes-vous toujours à 75 ans le même bluesman de la révolte?
Oui, je crois que ça c'est pour la vie, hein. C'est difficile d'imaginer d'être autrement et de ressentir les choses autrement. Bien évidemment, malheureusement, alors en ce qui concerne le blues, ça de toute façon c'est quelque chose que j'ai en moi depuis les premières notes que j'ai jouées sur un piano avant de jouer de la contrebasse. Et puis c'est vraiment les premières notes que j'ai entendues et jouées moi-même. Et puis pour ce qui est de la révolte, eh ben malheureusement c'est pas ce qui manque les motifs de se révolter en ce moment, non seulement dans le monde, non seulement par rapport à l'écologie évidemment, par rapport à l'état de la terre dans laquelle nous l'avons mise et surtout ils l'ont mise et ils la mettent, et puis aussi de ce qui se passe dans notre pays quoi. Enfin c'est il y a pas de quoi être vraiment serein, je trouve.
Vous parlez d'écologie, je me rappelle un disque il y a pas mal d'années maintenant qui s'appelait Alerte à l'eau, par exemple.
Oui, déjà, mais c'est drôle parce que cette question que vous me posez n'est pas drôle, mais et d'ailleurs ce que je vais évoquer n'est pas drôle non plus, mais c'est une façon de parler, mais c'est assez étrange parce que ça fait longtemps dans mes tout premiers albums, il était question de ça déjà, même dans les années 70, il y avait des allusions. Et puis par exemple, j'ai composé un morceau qui s'appelle Don't Buy Ivory Anymore, ce qui voulait dire tout simplement arrêter d'acheter de l'ivoire et puis de massacrer les éléphants. Or il se trouve que les éléphants sont de nouveau ont jamais été vraiment en sécurité, mais ils sont de nouveau vraiment menacés. Alors quelquefois, on c'est pas qu'on se décourage, parce que de toute façon, faut pas lâcher, sinon on sert à rien, encore moins à rien. Mais là, vraiment, je me demande si je devrais, faut pas que j'arrête d'évoquer dans les titres de mes compositions des sujets aussi graves, parce que j'ai l'impression que ça transforme rien du tout, quoi. Et puis c'est la même chose pour l'eau. La même chose pour toutes les allusions, la même chose pour l'Amazon. J'ai eu aussi composé un morceau dans les années 90 qui s'appelait Amazon Blues, qui c'était clair, hein, le message était clair. Déjà l'Amazonie était et le fleuve Amazon en particulier était en danger de pollution extrême avec on connaît toutes ces histoires là avec le mercure déversé et les populations qui vivaient le long du fleuve. Là, c'est pire que jamais, quoi. Enfin, c'est demander si. Enfin, je finis par croire que je l'ai toujours un peu cru ou ressenti, mais je finis par croire que l'être humain fera jamais de progrès, quoi. Enfin, c'est assez désespérant.
Alors, vous parlez d'être humain. Moi, je vous parle d'un animal. Vous interprétez sur ce nouveau disque une composition qui s'appelle Standing Horse, qui trouve aussi un écho d'ailleurs avec la photo signée Guy Le Querec sur la pochette de Chance. Allez, oui. Je me demandais, est-ce que ce cheval debout là qu'on voit sur l'île de Bas, je crois, est-ce qu'il ne serait pas d'une certaine façon un peu votre reflet?
Je sais pas vraiment, hein. En tout cas, c'est à l'insu de mon plein gré, hein, d'une certaine manière, si je puis dire. en fait, ce que j'ai ressenti en voyant cette photo de Guy Le Carré, que j'ai cherché beaucoup, beaucoup, parce que je cherchais une photo, j'avais pas vraiment le désir de nouveau faire allusion aux Amérindiens ou à l'Afrique ou à l'eau. Enfin, c'est faut un petit peu chercher des images différentes. Et quand j'ai trouvé cette, j'avais le titre de l'album déjà, Chance. Quand j'ai vu cette photographie, j'en ai cherché beaucoup chez Guy Le Carré. J'ai cherché aussi chez Prévert, dans les collages de Prévert. Et quand j'ai vu cette photo-là, je suis tombé dessus. Elle m'a inspiré. Elle m'a, comment dirais-je, j'ai vu ce cheval et je me suis dit, il a de la chance, ce cheval. Alors, dans ce sens-là, peut-être que c'est mon reflet. Je trouve qu'il a de la chance. Il est là, debout, tranquille, sur une dune, dans la lande. Il n'y a pratiquement pas de traces d'humain, justement. Le ciel n'est pas spécialement clair, mais il n'est pas non plus menaçant. On sait, moi je sais que de l'autre côté de cette dune, il est en train, d'une certaine manière, de contempler la mer. Il est là, tranquille. Il a la chance d'être là, peinard, sans que personne ne l'ennuie. Et puis d'autre part, il a la chance aussi de pouvoir soit rester là, soit de partir tranquillement au petit trot, soit de s'en aller et de galoper furieusement et très librement dans ce paysage qui semble non pas infini mais presque sans limite. Et voilà, donc ça m'a touché cette photo là, ouais, vraiment.
Et parmi vos motifs de chance, vous dites avoir la chance de n'avoir que peu de regrets. Alors, ce qui peut signifier que malgré ce constat qui finalement est assez positif, il peut vous arriver d'en avoir. Alors, lesquels seraient-ils? Ou en complément de votre réponse, est-ce que vous avez des rêves musicaux ou autres hein, qui vous trottent toujours dans la tête et qui ne sont pas encore assouvis?
Ah bah on en a toujours hein ça mais j'ai des regrets. Oh là, des regrets, j'en ai un paquet quoi. J'en ai comme tout le monde, enfin je suppose. C'est-à-dire que j'ai plein de regrets, plein de ne pas avoir pu réaliser des projets, de ne pas avoir pu les réaliser ou de pas les réaliser dans les conditions que j'aimerais pouvoir les réaliser ou etc. Les regrets, puis après bon, ne serait-ce que musicalement, on en a forcément. Ou de ne pas avoir agi comme il aurait dû falloir agir par rapport à une situation musicale ou même parfois une situation humaine. Et finalement, j'en ai assez peu si je regarde ces 75 années de vie et sachant d'où je viens et de quel milieu je viens et de quelle manière j'ai vécu, ce serait un peu indécent d'être perclus de regrets. Et maintenant, des rêves ou des regrets de ne pas avoir, comment dirais-je, en imaginé des projets ou réalisé des projets. Ouais, j'en ai quelques-uns, mais pas tant que ça finalement. Et puis, par exemple, j'aurais aimé enregistrer avec Elvin Jones. Vous voyez, ce grand batteur.
Oh, Elvin.
Oh, Elvin, ouais, exactement. Mais ce grand batteur magnifique et tellement inspirant et tellement inventif, à une époque, dans les années 90-2000, j'aurais presque pu enregistrer avec lui parce que j'avais des très bons contacts. Je l'avais rencontré plusieurs fois, il était absolument délicieux. Et puis ça s'est pas fait quoi. Bon, j'aurais peut-être dû un peu forcer le destin à ce moment-là. Si j'avais un peu forcé le destin, ça serait arrivé. Ça, c'est le genre de regret musical, mais j'en ai pas tant que ça finalement, parce que comme j'ai eu une vie très bien remplie, et puis surtout par rapport à tous ces grands musiciens, tous ces grands créateurs et inventeurs du jazz, j'ai eu la chance tout jeune d'en accompagner beaucoup et des majeurs, des inventeurs de cette musique vraiment. Donc j'ai vraiment pas de regrets à avoir. Et puis par la suite, à partir disons des années, fin des années 70, j'ai tous les compagnons musicaux avec lesquels j'ai travaillé, que j'ai rencontré ou que j'ai invité dans mes propres formations, ça a toujours été pour moi, des réussites, des rencontres très, très réussies. Donc, je n'ai pas beaucoup de regrets de ce côté-là. Et puis, bah, dans l'avenir, oui, j'ai des projets, j'ai des idées qui me traversent la tête. J'espère que je vais les réaliser. Mais j'ai pas des rêves impossibles qui vont, comment dirais-je, me déclencher des regrets.
Mais vous avez, en toute humilité, quand même conscience d'être aussi à vous seul un chapitre de l'histoire du jazz en France et en Europe.
Bah ouais, mais même aux États-Unis.
Même aux États-Unis.
mais même dans le monde, le mec qui dit. Non mais. Je me marre parce que, en fait, c'est vrai parce que, bon, bah, je suis connu dans le monde entier. Je veux dire, j'ai joué en toute modestie, j'ai joué un peu partout dans le monde. Je crois qu'il me manque le Brésil en Amérique du Sud et puis l'Australie et puis quelques endroits en Afrique que j'ai aussi beaucoup parcouru. Voilà, donc j'ai été joué vraiment un peu partout et j'y suis allé jouer parce que j'étais Henri Texier. J'y suis pas allé jouer par hasard ou parce que j'accompagnais des musiciens qui m'invitaient ou des choses comme ça. Non, j'y suis allé avec mes propres formations. Donc j'étais demandé et donc ouais, oui, je suis conscient forcément. Ou alors faut être un peu débile pour pas avoir conscience de ça parce que c'est vrai que en regardant ma vie musicale, elle est bien remplie. Elle est aussi émaillée de beaucoup de rencontres très très créatives. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à moi, qui me suivent, qui écoutent mes albums, qui viennent m'écouter au concert. J'ai la chance de quand je me produis, que le public se déplace. Voilà, j'ai à chaque fois que j'ai joué avec, j'ai réuni des groupes, les musiciens qui ont joué autour de moi m'ont manifesté beaucoup de sympathie et ont été très concernés par les projets musicaux que je leur proposais. Il y a aussi des gens qui viennent me voir, parfois des jeunes musiciens, hein, plutôt jeunes même, qui viennent me voir et qui disent que le fait de m'avoir entendu jouer ou d'avoir entendu un de mes albums, bah, ça a déclenché chez eux un désir de pratiquer la contrebasse ou de se consacrer à la musique de jazz ou même parfois des gens qui ne sont pas musiciens, des gens qui écrivent ou des gens qui des photographes, des plasticiens aussi qui ont été m'ont-ils dit inspirés parce que j'ai joué. Donc voilà, bah ouais, oui forcément, j'en suis conscient, hein, mais bon, et alors c'est pas pour ça que demain je vais me sentir plus pharo que n'importe quelle autre personne, pas du tout. Parce que à chaque fois qu'on, c'est une musique finalement relativement compliquée à vivre, la musique de jazz, et c'est tous les jours qu'il faut remettre sur le métier, et c'est tous les jours qu'il faut prouver sa valeur. Donc que vous soyez quelqu'un qui est compté ou qui est pas compté, d'aucuns prétendent que je suis une des légendes du jazz français. Légende ou pas légende, quand il s'agit de trouver du travail, quand il s'agit de construire des projets, quand il s'agit de convaincre que ces projets sont intéressants et inventifs, faut retourner au charbon c'est pour l'éternité.
Alors justement, plutôt que de jazz, vous aimez parler de la musique de jazz. C'est une expression qui semble lui donner une forme de noblesse supplémentaire. Comment définiriez-vous cette musique de jazz et comment définiriez-vous aussi votre propre musique dans la mesure où celle-ci me semble identifiable aux premières notes?
Alors, pour ce qui est du terme musique de jazz, on dit bien la musique classique. je vois pas pourquoi on dirait pas la musique de jazz, ou on dit bien la musique baroque, hein. Alors quand on dit ouais, on va écouter du classique, c'est plutôt familier, agréable. Mais sinon, si on parle de la musique de jazz, si on entend les gens parler de la musique de jazz, ils disent jamais musique de jazz. Ils disent jazz, ah ouais, le jazz. Moi, j'ai décidé que la musique de jazz, c'était le jazz, c'était une musique et c'était une forme d'art, donc il n'y avait pas de raison de pas l'appeler musique de jazz, déjà, pour commencer. Et puis, et c'est une grande musique en plus, et c'est une musique déjà ancienne aussi, c'est une musique universelle. C'est une musique qui est non seulement universelle sur le plan du répertoire, on pourrait citer Louis Armstrong, Duke Ellington, enfin tous les grands créateurs, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, et puis la liste est longue. Mais comme on pourrait citer Mozart, Jean-Sébastien Bach, Schubert, etc., Stravinsky, sans parler des musiciens contemporains et des musiciens de la musique baroque. Mais c'est une musique qui s'invente toujours aujourd'hui, au jour le jour, qui est toujours extrêmement vivante et qui est extrêmement créative et qui est pratiquée par des artistes extrêmement accomplis. Ce sont des les grands musiciens de jazz sont des grands grands artistes, sont des gens exceptionnels. Et quand les gens comme ça, les gens lambda disent ouais, le jazz, oui, c'est une musique conviviale, le jazz, ceci, le jazz, cela. Moi, j'entends pas dans leurs propos qu'ils admirent tant que ça et qu'ils prennent conscience tant que ça de l'immense valeur des grands musiciens de jazz.
Et quand on écoute...
Personnellement, oui, parce que il y a une partie de la question
oui,
à laquelle
je voilà, justement.
Comment je me situe là-dedans? Eh ben, normalement, enfin, lorsque j'étais un tout jeune musicien et que j'ai commencé là c'était un pur rêve qui était en train de se réaliser. Je jouais avec mes idoles, avec les grands musiciens que j'avais la chance d'accompagner, comme Dexter Gordon. Enfin, la liste est longue, vous la connaissez. Kenny Clarke, Bud Powell, Don Cherry, Lee Konitz. Il y a etc etc, puis musiciens français évidemment, des grands musiciens français et européens. Quand je jouais avec ces musiciens là ce que je leur entendais dire et ce dont ils parlaient en permanence, c'était de l'originalité. Pour eux, c'était un véritable souci, parce qu'à l'époque il y avait un répertoire commun qu'on appelait les standards, qui était des chansons qui venaient la plupart du temps de Broadway, qui étaient imposées aux musiciens de jazz et à travers desquelles ils improvisaient. Donc le langage était pratiquement le même pour tout le monde. Le langage qui était issu du bebop était le langage le même pour tout le monde, avec le même vocabulaire, etc. Sauf que ceux que ces grands musiciens admiraient le plus, c'était ceux qui racontaient leur propre histoire avec ce langage, au moyen de ce langage. Donc, il parlait d'originalité. Donc, c'est pareil pour ces musiciens qui ont inventé cette musique. Si vous les écoutez, et si vous êtes un petit peu familier avec la manière dont ils jouent, vous les reconnaissez instantanément. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné, ce souci-là. Alors évidemment, j'aurais pu très bien être impressionné et puis continuer à, enfin, ou du moins essayer de copier le mieux possible les grands maîtres américains, et puis voilà. D'ailleurs, à l'époque, quelqu'un qui copiait un grand maître américain et qui essayait de jouer comme lui, on l'admirait beaucoup. On disait oh là là, il est formidable, il joue comme Coltrane ou il joue comme Miles, et c'était un énorme compliment. Et puis après les années, dans les années 70, tout ça, les choses ont changé et les gens, et notamment les musiciens européens, ont été moins tournés vers les États-Unis, vers les musiciens américains, et ont peut-être cherché des sonorités, des manières de s'exprimer, tout en étant parfaitement authentique et en étant en accord avec le langage de la musique de jazz, de trouver leur propre dimension, leur propre personnalité, Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Et je sais quels sont les éléments dans mon expressivité qui sont. Je sais qu'est-ce qui fait mon originalité. Au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte quand même. Voilà. Et ce dont vous me parlez, que je suis reconnaissable après quelques mesures ou après le thème ou le début de la composition, je sais pourquoi.
Et justement, quand on écoute vos disques, alors votre musique, on va dire, dont la facture est assez typique du langage jazz par sa structure, avec le thème, les choruses et puis la reprise du thème, on se rend compte par ailleurs que chacune de vos compositions pourrait être chantée. D'ailleurs, il vous arrive parfois, tout en jouant, de chanter sur scène les mélodies que vous jouez. Et la question que je me posais, c'était comment vous venez l'inspiration, qu'est-ce qui la nourrit, et de façon plus concrète, savoir comment vous travaillez pour fixer la musique que vous avez en tête avant de la faire vivre collectivement à travers les différentes formations.
Alors ça, c'est un pur mystère. Alors là, je n'ai pas d'explication précise. Je me mets à composer. Il y a plusieurs possibilités. Tout d'un coup, je vais prendre mon instrument, ma contrebasse, pour travailler, tout simplement. Et puis, hop, il y a une petite phrase qui va me venir sous les doigts, et je vais la trouver plutôt pas mal. Donc, je vais la noter. Voilà. Donc, ça, c'est le bloc-notes. Mais c'est assez rare, en fait. Hein. C'est pas... Ou alors, il y a une ligne de basse. Qu'on appelle une ligne de basse, c'est-à-dire une ligne qui peut soutenir une mélodie, qui me vient sous les doigts, puisque les contrebassistes construisent tout leur travail d'accompagnement sur ce qu'on appelle des lignes de basse, et qui se déroule sous les improvisations et sous les thèmes, et sous les mélodies, etc. Et tout d'un coup, j'ai une ligne de basse qui me vient comme ça sous les doigts, mais je sais pas d'où elle vient, celle-là. Hein. D'ailleurs, je la vérifie toujours, parce que parfois, ça peut être le souvenir de ce que j'ai entendu par ailleurs, et ce serait vraiment dommage d'aller voler inconsciemment le travail de quelqu'un d'autre ou l'invention de quelqu'un d'autre. Et donc je note, voilà. Et puis l'autre démarche, c'est que tout d'un coup, pour des raisons qui sont voilà, il faut que je compose. Par exemple, pour le dernier album, j'ai demandé à mes petits camarades d'apporter chacun une composition. Et puis, enfin plusieurs, et puis on les a choisis ensemble. Bon, j'ai un peu fait le choix en dernier parce que fallait qu'elles soient complémentaires. Et puis pour construire un album, pour que elles soient un peu diverses. Et donc, je me suis retrouvé avec 4 compositions. Et je me suis dit, voilà, maintenant, il faut remplir le reste de l'album. Il va falloir que t'amènes 3 ou 4 compositions aussi, toi. Et là, je me suis installé au piano, parce que je travaille pas mal au piano quand je compose. Je me suis installé devant mon piano, et j'ai composé. Et je me suis mis à travailler, je sais pas... et là, je peux panouiller pendant plusieurs jours, et rien trouver du tout, noter des bouts de machin, et puis c'est pas très satisfaisant. Et puis tout d'un coup, il y a une phrase qui arrive, celle-là je la note. Et parfois aussi, je prends ma contrebasse, je fais une ligne de basse répétitive et je chante par-dessus aussi. Je chante à tue-tête. Il y a des compositions, je les ai vraiment trouvées en hurlant, comme des hymnes, comme si j'étais à l'intérieur d'un chœur de 100 personnes. Vous voyez ce que je veux dire ?
Très bien.
Et donc, d'ailleurs, ça s'entend. Hein. Certaines de mes compositions, ce sont vraiment des hymnes.
Sacrifice, par exemple.
Oui, exactement. Oui, c'en est un. Mais là, même dans le dernier, c'est un peu moins véhément. Mais il y en a un ou deux. Enfin, il y en a une surtout qui pourrait vraiment être un hymne. Et puis après, ça peut être aussi l'autre source d'inspiration. Ça peut venir. Là, il y a pas de source d'inspiration. C'est-à-dire dans la situation où je me mets devant le piano, puis je me dis bon là mon gars là, il faut qu'il y ait un truc qui apparaisse là. Tu t'arrêteras quand t'auras trouvé quelque chose et quelque chose de satisfaisant. Alors parfois j'ai des idées qui m'arrive, et je me dis, ah, c'est pas mal, ça, ça tient bien, ça, ça tient le coup. Et puis, je me dis, mais ça me rappelle quelque chose. Parce que ça va faire plus de 20 disques que j'ai fait sous mon nom, avec mes compositions, sans parler des compositions pour d'autres situations. Et là, je me dis, mais tu l'as déjà fait, ça. Et je vais écouter mes disques, je me dis, où est-ce que j'ai fait ce truc-là? Et parfois, je cherche, parce que je me souviens plus. Et là, évidemment, c'est exclu de la réutiliser. Là, c'est exclu complètement. Et puis l'autre situation aussi, c'est à peu près la dernière situation, c'est d'être inspiré par quelque chose, c'est d'être inspiré par l'idée de la femme. Quand je dis l'idée de la femme, c'est la femme dans sa globalité. C'est par le sable. Ça, c'était le dernier album, La disparition du sable. Et puis là, par exemple, il y a une chanson, je l'appelle, quoique elle est d'une simplicité un peu vertigineuse. C'est pour mettre des paroles, c'est quasi impossible tellement il y a peu de notes. Mais il y a une composition qui est dédiée à Simone et Robert.
J'allais en parler.
Respectivement, Simone Veil et Robert Badinter. Et ça, ça s'est imposé à moi, ces deux personnes extraordinaires, qui ont mené un combat terrible, et qui ont changé notre vie. Les jeunes gens, aujourd'hui, n'ont pas idée, mais absolument aucune idée, ils ne se rendent absolument pas compte, c'est purement théorique pour eux, de ce que c'était la situation d'une femme qui, tout d'un coup, était dans l'obligation d'avorter, avant que l'interruption d'une grossesse soit autorisée. Et voilà. Et puis, Robert Badinter, la peine de mort, ça va, il y a sans commentaire.
Mais est-ce que, d'ailleurs, j'allais justement vous poser une question au sujet de cette composition. Ce qui est assez frappant, c'est que c'est une ballade aux couleurs presque mélancoliques, on va dire. Et
oui.
Vous rendez donc un hommage à l'action de Simone Veil et Robert Badinter avec beaucoup de tendresse, de douceur, et finalement ça contraste avec l'âpreté de leur combat à l'époque.
Bah oui, parce qu'en fait, si vous voulez, moi je ne peux avoir que de la tendresse pour ces deux personnes-là. Que par ailleurs, je ne connaissais pas plus que de les avoir vus à la télévision ou d'avoir lu leurs déclarations, etc. Je veux dire, j'ai aucune intimité avec ces personnes-là. J'ai d'ailleurs, même avec Simone Veil, j'ai pas d'affinité politique non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça s'est passé sous Giscard, et moi, le giscardisme, c'était loin, loin, loin de mon idéal politique. Et alors que, bon, Badinter, déjà, c'était beaucoup plus proche. Mais donc ça n'a rien à voir, mais simplement que j'ai énormément de tendresse, et c'est ce que j'ai essayé de faire entendre pour ces deux personnes, parce qu'elles nous ont vraiment changé la vie. C'est-à-dire que du jour au lendemain, grâce à eux, moi je pense surtout à l'interruption de grossesse, à l'avortement. Du jour au lendemain, vraiment grâce à eux, la vie a été changée, mais du tout au tout, du tout au tout, pour les femmes et pour les hommes. Parce que moi, j'ai vécu avant, les gens de ma génération sont des passeurs d'une certaine manière, parce qu'on a vécu avant l'interruption de grossesse et après, et ça change tout. J'ai vécu, avec mon épouse, on a vécu des choses assez terrible. Je vais pas raconter là parce que je vais pas vous raconter cette partie de ma vie, mais vraiment de chez vraiment, c'est-à-dire des choses extrêmement cruelles. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc si une personne qui tout d'un coup par son combat fait en sorte que un jour cette cruauté disparaît, mais c'est un miracle. On ne peut avoir qu'une immense tendresse pour elle.
Alors, on va continuer justement sur une composition qu'on trouve sur votre nouveau disque, Chance. On sait votre passion pour le cinéma. Hein. Vous avez composé par le passé Simone Signoret, ou je me rappelle aussi Marcello Mastroianni.
Oui.
Votre fils Sébastien, d'ailleurs, je dis ça en passant, a déposé dans la corbeille du nouveau disque un titre qu'on connaissait déjà, mais qui s'appelle Cinecittà. Et cette
Absolument.
fois, de votre côté, alors vous célébrez la chorégraphie, la danse avec Pina Bausch, et qui est une composition, alors au contraire enlevée, presque joyeuse. Et la question que je me posais, c'est qu'au-delà de l'admiration qui est la vôtre pour ces grandes figures, comment situez-vous cette célébration de l'art, ou plutôt des arts, dans un environnement, on va dire, mondialisé et néolibéral qui fait passer l'humain au second plan? C'est de l'ordre de la nécessité?
Ah bah absolument, absolument. Il faut rendre hommage enfin moi je trouve ça merveilleux d'avoir la liberté de pouvoir rendre hommage à ces grands artistes ou à ces grands êtres humains. Mais en évoquant Pina Bausch, il m'est arrivé un jour d'être chez un ami à moi vraiment extrêmement passionné de vidéos, qui avait une sorte de home cinéma dans sa grange, hein. C'est pas le mec qui a son studio de cinoche à la maison et tout. Je parle pas ça, je parle d'un vrai passionné qui est chez lui et tout d'un coup il s'était procuré un bel écran et puis un projecteur en trois dimensions. Et c'était très étrange parce que j'avais vraiment l'impression d'être au cinéma. J'étais tout seul avec mon épouse parce que lui l'avait déjà vu et il nous a passé avec les lunettes et tout, pour les trois dimensions, il nous a passé un film magnifique, le film de Wim Wenders, qui a été fait après la disparition de Pina Bausch. Et avec beaucoup, beaucoup d'extraits de toutes ces pièces, etc. Et moi, et c'était 11 h du matin, ce qui était assez exceptionnel pour se retrouver dans la situation d'être au cinéma. Et là, j'étais bouleversé par la poésie, l'humanité de tous les spectacles et de toutes les œuvres de Pina Bausch. Mais je la connaissais déjà avant, j'avais déjà vu d'autres documents, etc. Et je savais parfaitement. Malheureusement, je n'ai jamais vu de ces ballets en vrai, en live. Là, j'étais vraiment. Ça m'a énormément marqué. Et puis sur le plan esthétique aussi, parce qu'il y avait des choses qui se passaient dans la nature, où la nature était évoquée. Je me souviens d'une scène en particulier où un ballet sur la scène, il y a une espèce de grand rocher comme ça, avec des parties glissantes, et les danseurs dansent dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir
Non.
ça. C'est absolument sublime. C'est d'une poésie, c'est extraordinaire. Donc voilà. Ça m'est venu à l'esprit, puis plus exactement, j'ai composé cette musique-là, puis c'est Pina Bausch qui est venue après dans mon esprit pour devenir le titre hommage de cette composition. Et finalement, Pina Bausch, qui était quelqu'un qui n'était pas spécialement forcément poilante, hein, mais il y avait une telle humanité. J'étais à la sortie de cette projection là, comme ça, plus que privé, presque en catimini, extrêmement intime, j'ai ressenti un tel plaisir que ça procurait à la fois, j'étais très ému, mais ça procurait une énorme joie. Donc j'ai trouvé que cette compo qui était plutôt joyeuse. Quand on l'a répété, d'ailleurs, quand je l'ai proposé à mes camarades, on rigolait, on se marrait quand on la jouait. Mais vraiment, ça nous
Mais
faisait
ça
marrer.
s'entend, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Donc, ben voilà, pour une fois que je fais un machin qui fait marrer, c'est pas mal quand même.
Alors justement, on parle des petits camarades là, puisque Chance, c'est en fait la reconduction à l'identique de l'équipe du précédent disque Sound Woman.
Oui,
Donc je le
absolument.
redis, Sébastien Texier au saxophone et à la clarinette, Manu Koji à la guitare, Vincent Lekuang au saxophone et Gauthier Garrigue à la batterie. Alors les deux derniers, Vincent Lekuang et Gauthier Garrigue, c'était les petits nouveaux, il y a 2 ans, par opposition aux deux premiers qui font partie de votre cercle depuis beaucoup plus longtemps, les anciens. Et justement, je me posais la question de savoir comment vous découvriez le talent de nouveaux musiciens. Enfin, par quel canal vous passiez pour savoir, tiens, avec Gauthier Garrigue, j'en ferais bien mon batteur, je jouerais bien avec Vincent Lecoing.
Alors, c'est très différent. La plupart du temps, c'est parce que selon les circonstances, alors ça peut être, maintenant Internet ça peut jouer, hein, je veux dire, on regarde tout d'un coup, on tombe dans la boîte de Pandore de YouTube, et puis on regarde un truc et on se retrouve 3 heures après en train d'avoir, on a regardé 50 machins, tous plus intéressants que les autres, parfois, hein, et puis bon, parfois c'est ce canal-là, parfois, mais avant, bien avant déjà, c'était parce que j'entendais une émission de radio ou un disque, ou simplement je rencontrais les musiciens, j'allais les écouter dans les clubs ou en concert, en festival, et puis j'entendais un musicien et puis je me disais tiens, voilà, j'aime beaucoup ce qu'il joue, j'aime beaucoup son son, sa personnalité, son personnage aussi, ça compte aussi l'aspect de la personne, et puis ce qui se dégage de lui, voilà, son charisme, etc. Et puis je me dis, tiens, peut-être qu'un jour, à l'occasion, malheureusement, j'en ai pas si tant que ça, des occasions de rencontrer beaucoup de musiciens, hein. Et puis, si c'est pour les rencontrer dans ma salle de bain, c'est pas intéressant, faut jouer en public, faut que ça existe. Et de moins en moins, hein, c'est compliqué, hein, maintenant, de pouvoir comme ça réunir des formations. Et puis, en fait, en même temps, en ce moment, je n'ai absolument pas envie. Mais parce que je suis d'une certaine manière vraiment comblé par ce quintet. Mais si vous voulez, voilà, ça c'est une manière d'entendre et de se dire, de mettre dans un petit coin de sa tête, tiens, si un jour j'ai l'occasion, j'aimerais bien jouer avec ce musicien-là. Et puis il y a ça a été le cas avec Vincent Lecoing. En fait, on a joué directement ensemble. C'est-à-dire que la rencontre s'est faite avec au travers d'Aldo Romano.
Liberi Sumus.
Exactement. Qui nous a conviés à jouer ensemble et d'une manière absolument totalement improvisée, ce qu'on entend dans cet album sous le nom d'Aldo, là, Liberi Sumus. C'est-à-dire que ce qu'on entend dans cet album d'Aldo, Liberi Sumus, c'est absolument la première fois que nous jouons ensemble avec Vincent Lecoing. Ce n'est jamais arrivé avant. C'est-à-dire que lorsque nous nous sommes rencontrés à la Balance pour essayer la sonorisation, nous n'avons pratiquement pas joué. Quelques minutes, peut-être 5-10 minutes, on a essayé différents climats pour que l'ingénieur du son puisse régler ses micros, sa sonorisation. Et puis, on s'est arrêté là. Et lorsqu'on a joué pour le concert. Moi, avant la Balance, avant l'après-midi où on s'est rencontrés, j'avais jamais vu Vincent Lecoing. Et ça s'entend dans l'album, on s'est entendu instantanément à merveille. Et là, je me suis dit, pour le coup, si un jour j'ai l'occasion de jouer avec Vincent Lecoing, je le ferai. Voilà. Et donc ça s'est trouvé comme ça. Ensuite, pour Gauthier Garrigue, c'est beaucoup plus rigolo et fortuit. Je lis Jazz Magazine, n'est-ce pas, comme tout le monde. Je parcours les programmes, les choses. Enfin voilà, c'est. Et puis je vois dans une programmation, je vois Gauthier Garrigue à la batterie. Je dis tiens, c'est marrant, c'est un joli nom ça pour un batteur Garrigue, c'est un chouette nom. Et puis le numéro d'après, je le revois, puis encore. Et puis là, je m'aperçois qu'il a enregistré un disque avec un groupe auquel il participe qui s'appelle Flash Pig.
Flash Pig, oui.
Et que dans lequel le disque qu'ils viennent d'enregistrer, ils ont invité Manu Kodja. Alors, j'appelle Manu Kodja, je jouais pas avec Manu Kodja à l'époque. Hein. C'était un moment où il faisait pas partie de mon... C'était le Hope Quartet. C'était le... Le Sky Dancers, le sextet, et le groupe précédent, là, le quintet. Et donc, j'appelle Manu, je fais, salut, ça va, tout ça. Je lui dis, t'as enregistré avec moi? Il me dit, ouais. Je lui dis, et comment il joue? Il joue bien? Il me dit, ah ouais, il joue très bien. Et puis, il irait très bien avec Tezic et tout ça, quoi. Ah, je dis, bah, écoute, ça t'ennuie si on se voit tous les trois, parce que Sébastien était même pas là, ce jour-là. Donc, on a fait une session, comme ça, de rencontre. Oh, c'était pas une audition, hein, parce que, bon, j'avais pas spécialement dans l'idée de changer de formation, vraiment. Bon, mais ça s'est trouvé comme ça, quoi. Et puis, pour une fois, j'ai fait ça, un peu comme les jeunes, un peu comme les musiciens, pas que les jeunes, d'ailleurs, font maintenant pour pouvoir continuer à s'entraîner, parce que souvent, ils n'ont pas trop d'occasion de jouer, donc c'est une manière de se rencontrer et de faire de la musique ensemble. Donc, on s'est rencontrés tous les trois avec Manu Kodja et Gauthier Garrigue, et au bout de 8 mesures, c'était réglé. Hein. Je savais que j'allais jouer avec lui. Et puis, lorsque l'occasion s'est présentée, j'ai réuni ce quintet-là, c'est devenu mon nouveau groupe.
D'accord. Alors, je vais changer un tout petit peu, enfin, non pas de sujet, puisqu'on parle toujours de musique et on parle de vous. Vous êtes quelqu'un qui est fidèle en amitié, et sans doute pas seulement dans le domaine de la musique, hein. Et parmi les différentes marques de cette fidélité, il y a celle que vous avez pour le label bleu sur lequel vous avez enregistré tous vos disques depuis les années 80, y compris du temps où ce label avait connu pas mal de difficultés. Il était presque menacé à un moment. Donc, parlez-nous de cette fidélité de ce label, enfin en quelques mots, bien sûr.
Ça se résume assez simplement et assez rapidement. C'est que label bleu, j'ai rencontré Michel Aurier qui venait de recréer le festival de jazz à la Maison des Cultures d'Amiens, qui avait créé qui a créé le label bleu. Alors je crois que j'étais peut-être le troisième. Le premier album que j'ai fait pour label bleu, ça devait être peut-être le troisième album chez label bleu.
C'était la Campanera, je pense.
Tout début. Non. La Campanera, c'était avant. La Campanera a été après inscrit chez Label Bleu. Non, c'était Paris-Batignolles.
Oui, Paris-Batignolles.
Le tout premier. La Campanera avait été enregistrée antérieurement et il y a eu un accord avec Patrice Caratini, qui était le contrebassiste, qui était producteur de la Campanera, avec Label Bleu pour qu'il soit distribué dans le cadre du catalogue de Label Bleu. Et donc, c'était Paris-Batignolles. À partir de ce moment-là, j'ai enregistré pour Label Bleu et il s'est trouvé que je me suis toujours bien senti chez Label Bleu. Il y a eu les directeurs ont changé, les équipes ont changé, l'ingénieur a changé une fois, et puis deux ou trois fois plutôt, et puis depuis je suis resté chez Label Bleu. Pourquoi aller ailleurs? Parce que simplement que d'abord c'est un bon label qu'on enregistre dans un très bon studio avec un ingénieur du son excellentissime.
J'allais vous en parler, Philippe Tessier-Ducrot.
Absolument. Lui, ça fait vraiment beaucoup d'albums qu'il enregistre avec moi. Ça fait très longtemps que nous enregistrons ensemble. C'est un artiste, c'est quelqu'un qui a du style, c'est quelqu'un qui n'est pas qu'un preneur de son. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était quelqu'un d'inventif. Et donc, on a fait je sais même plus, une bonne quinzaine d'albums ensemble. Ensuite, je me suis toujours parfaitement senti extrêmement libre artistiquement. J'ai toujours choisi les équipes de musiciens avec lesquels je voulais jouer, sans aucun problème, sans aucune critique, sans aucune entrave. De même pour la musique, de même pour les pochettes. De même pour les documents qui ornent les pochettes, de même pour les textes de pochettes. C'est chez Label Bleu, depuis 30 ans, j'ai absolument tout choisi, et évidemment en accord avec on en a parlé, hein, j'ai pas imposé des choses, j'ai proposé des choses. Et aussi le graphiste Christophe Rémy, qui est un excellent graphiste, avec qui je m'entends vraiment très 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 bien, et voilà. Donc pourquoi changer? c'est extraordinaire. Et puis, une fois, j'ai eu un contact avec ECM. Enfin, j'ai essayé d'établir un contact avec ECM dans les débuts où j'enregistrais avec Label Bleu. Ça s'est terminé en autre boudin de première, et donc j'ai pas insisté. Et voilà.
Et puis vous êtes très bien là.
Ah, mais absolument. Et puis apparemment, ça dure. Ensuite, j'ai, sans parler, bon, les conditions d'enregistrement excellentes, à tous les points de vue, les conditions d'accueil, etc. Donc vraiment, c'est... Alors là, il y a vraiment aucun regret de ce côté-là, hein, mais aucun du tout, zéro.
Alors, l'une de vos aventures musicales les plus marquantes, du moins de notre point de vue public, hein, c'est le trio que vous avez formé avec Louis Clavis et Aldo Romano, trio qu'on appelait par moment le trio africain, hein, en raison de son histoire. D'ailleurs, nous avons passé un extrait de Carnet de route le mois dernier dans l'heure du jazz. Cette histoire, elle est terminée ou elle peut toujours ressurgir entre vous trois?
Non, je crois qu'elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte tout doucement, gentiment, ça s'est éteint, voilà. On est toujours en relation. D'ailleurs, je dois rappeler Louis Clavis qui m'a laissé un petit message tout à l'heure parce que je lui ai envoyé une photographie que j'ai retrouvée et puis que j'ai envoyée, voilà. On est toujours en relation très étroite. J'ai vu pas plus tard qu'hier soir Aldo Romano à l'occasion de la sortie d'un document qui va paraître sur à propos de Didier Lecoud, de la disparition de Didier Lecoud. Donc on est en relation permanente, on est des frangins, quoi, on est des frères, c'est pour la vie. Mais de jouer ensemble, non, chacun suit sa route, ça va. Je crois qu'on a dit ce qu'on avait à dire. On a été, vous savez, quand les choses sont allées un petit peu au bout d'elles-mêmes, elle s'arrête tranquillement. Personne n'a décidé que ça s'arrêterait. Personne n'a dit oh bon stop, y en a marre, machin. Rien du tout. Voilà, ça s'est arrêté de soi-même. Après quasiment 26 ans d'existence. Ça va.
Oui. Et d'ailleurs, je parlais de Carnet de route. Accessoirement, c'est aussi un disque qui a, à l'époque où le disque se vendait un peu, c'est un disque qui a rencontré son public, qui s'est bien vendu. Enfin, ça, dans le monde du jazz, en tout cas.
Ah non, pas dans le monde du jazz, dans le monde tout court.
Tout court.
Ah bah oui. Ah bah oui, ça a été un énorme succès. Et pas seulement Carnet de route, les trois albums. Ah oui. Non, c'est un phénomène. Ça a été un phénomène. Vraiment.
Et il faut rappeler aussi que les disques africains, on va dire, les trois disques avaient pour caractéristique, bien sûr, de ne pas être seulement des disques, mais de véritables albums photos, qu'on pouvait, voilà, ce qui en faisait la richesse.
Bien sûr. D'ailleurs, le premier Carnet de route, le premier album en question, il y a eu deux moutures de, d'ailleurs, si vous avez le coffret chez vous, vous ouvrez le coffret, vous avez un livret très épais, hein, qui raconte notre aventure. Mais il y a quelque chose qu'on regarde pratiquement jamais. C'est à l'intérieur du boîtier, il y a encore un livret. Mmh. Et je vous conseille d'aller le voir, il y a encore des photos là. Mais c'est un livret important. Mais qui était destiné à être publié que avec le disque seul. Sans le gros livret à l'intérieur du coffret. Parce qu'au départ, on s'est dit, Label Bleu, Michel Aurier, qui était l'inventeur de Label Bleu, disait, bon, bah, écoutez, on va tirer un certain nombre d'exemplaires avec de coffrets, et puis après, une fois qu'on aura vendu un certain nombre de coffrets, on continuera de vendre le disque par lui-même, seul. Mm-hmm. Pas du tout. Mm-hmm. Les gens voulaient le coffret. Et là, ça a pris des proportions assez impressionnantes. Et donc, par la suite, il y a eu... C'est un peu mythique cette histoire-là. Hein. D'abord l'Afrique, bon, les trois musiciens bien sûr, évidemment Guy Le Carrec, absolument déterminant. Et puis voilà, et ce trio a vécu. Et alors ce qui était extraordinaire, c'est que c'était quasiment on en était, c'était un peu comme une attitude de musicien ethnique. C'est-à-dire que en 26 ans d'existence. On a dû avoir trois répertoires, maximum, peut-être même pas. Et on jouait à chaque fois exactement la même chose, exactement les mêmes compositions dans le même ordre, comme si on était des musiciens traditionnels ou des musiciens ethniques qui jouent toujours le même truc, quoi. Mais à chaque fois, c'était différent. Et à chaque fois, les gens étaient étaient embarqués. Donc, ouais, c'est une aventure extraordinaire, absolument exceptionnelle.
Donc, il fait partie de vos chances, hein, comme pour reprendre le. Alors, je vais vous poser une dernière question parce que le temps passe. On peut lire votre texte de présentation de chance comme une sorte de bilan, finalement. Et après toutes ces années passées au service de la musique de jazz et avec votre expérience qui est rare, finalement, bon, vous êtes bien placé pour effectuer ce retour sur vous-même. Mais nous, en tant qu'amoureux de la musique d'Henri Texier, on a besoin d'être rassurés en ce qui vous concerne. Dites-nous qu'il s'agit bien d'un point d'étape, comme on dit, avant la suite.
Ah, mais absolument. Non, non, mais pour moi, c'est pas du tout un bilan. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout un bilan. D'abord, la musique qui est là-dedans, elle est pas en forme de bilan. Le texte, c'est simplement que c'est une prise de conscience. C'est tout d'un coup, vous savez, je réfléchis toujours un petit peu à qu'est-ce que, comment, c'est un chapitre. C'est un des chapitres, comme il y a pu y avoir, comme on évoquait tout à l'heure. Les Amérindiens, l'eau, ouais, la chance, c'est vrai, quoi. Voilà, je réalise de plus en plus, bien sûr, avec l'âge aidant, je me rends compte toute la chance, extraordinaire. Et puis aussi quand j'échange avec des personnes, qu'elles soient de ma génération ou de n'importe quelle génération, et puis des jeunes musiciens qui parfois font un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment, me demandent et alors te rappelles et quand tu jouais avec un tel et qu'est-ce qui s'est passé et avec Paul Motion, avec Steve Swallow et avec Joe Lovano, etc. et tous ces grands musiciens américains et tous ces grands musiciens français avec Michel Portal et Daniel Humer, etc., etc. Et tant d'autres. Comment ça et je me dis c'était formidable. Donc j'ai eu une chance incroyable. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai intitulé. Et puis pour moi c'est aussi quelque chose de c'était un titre positif. Pour aussi un peu comme il y a eu le Hope Quartet, vous voyez ce que je veux dire, le quartet de l'histoire qui était mon avant-dernière formation. Et voilà quoi, c'est aussi pour donner une lueur d'espoir et puis dire que peut-être que la chance ça existe en fait et que simplement pour marquer qu'il n'y a pas que des déboires, quoi, voilà, et il n'y a pas que du désespoir par rapport à la nature humaine. Il y en a qui ont de la chance.
Ben voilà, c'est une belle conclusion. Alors cher Henri Texier, il me reste à vous remercier pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Puis d'où, de notre côté, nous allons souhaiter bonne chance à Chance. Que vous présenterez, d'ailleurs, je le précise, bientôt sur scène, ce sera, je crois, le 21 mars à Paris au Café de la Danse. En attendant, d'autres concerts et pourquoi pas, en tout cas, c'est notre souhait le plus cher du côté de notre bonne Lorraine. Alors, pour ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt et puis, encore un immense merci pour le temps passé en notre compagnie.
Mais je vous en prie, c'était un plaisir et j'espère évidemment, j'espère pouvoir venir jouer dans votre belle Lorraine. Le plus tôt sera le mieux.
Voilà, nous serons tous là. Plaisir. Merci, au revoir.
Merci infiniment.